Voyez d'ailleurs comment il les décrit. Il ne les distingue pas seulement les unes des autres parce qu'elles ne sont pas gouvernées de la même façon, mais parce qu'elles diffèrent par le nombre, la disposition et la cohésion de leurs éléments. La République n'a fleuré que dans les petites villes et n'a jamais pu s'étendre au-delà de leurs limites restreintes. Tel est le type de la cité chez les anciens. L'état despotique se rencontre au contraire chez des peuples aux dimensions considérables qui occupent d'immenses étendues, telles que les nations asiatiques. La monarchie, enfin, a un volume moyen, et si le nombre de ses sujets est supérieur à celui de la République, il est inférieur à celui du gouvernement despotique. De plus, les membres de ces différentes sociétés ne sont pas disposés selon la même ordonnance ni unis entre eux par les mêmes liens. En République et surtout en démocratie, tous sont égaux entre eux et même semblables. La cité a pour ainsi dire l'aspect d'un bloc dont les éléments sont de même nature et juxtaposés les uns aux autres, sans qu'aucun possède la supériorité. Tous veillent également à la chose commune. Ceux qui détiennent les magistratures ne sont pas au-dessus des autres, car ils ne remplissent leur charge que pour un temps. Bien mieux, même dans la vie privée, ils ne diffèrent guère davantage entre eux. En effet, c'est le principe de la République, ou du moins le but auquel elle tend, que personne ne dépasse trop les autres en ressources. Car s'il est vrai qu'une égalité absolue n'est pas facile à réaliser, du moins, partout où la République existe, les lois font obstacle à ce qu'il y ait une trop grande distance entre les fortunes individuelles. Or, ceci ne pourrait se faire si chacun pouvait accroître ses richesses sans limite. Il est nécessaire que les moyens de tous soient médiocres pour qu'ils soient suffisamment égaux. Chacun, dit Montesquieu, devant y avoir le même bonheur, il doit goûter les mêmes plaisirs et former les mêmes espérances, chose qu'on ne peut attendre que de la frugalité générale. Dans ces conditions, les fortunes privées étant à ce point réduites, ne tiennent pas beaucoup de place dans la vie et la pensée de chacun, qui sont au contraire toutes remplies du souci de l'intérêt commun. Ainsi est donc supprimée la cause d'où la différence entre les hommes tire son origine principale. Bien mieux, la vie privée elle-même ne peut y être très différente, car cette condition médiocre établie par la loi entre tous les citoyens supprime à peu près tous les stimulants au commerce, lequel ne peut exister sans une certaine inégalité des conditions. Aussi, tous ont-ils à peu près la même activité. Ils travaillent à tirer d'une certaine portion de terre qui est égale pour tous, ce qui leur est nécessaire pour vivre. En un mot, toute division du travail fait défaut entre les parties du corps social, à moins qu'on ne veuille appeler de ce nom cette alternance dans l'exercice des magistratures publiques, nous avons parlé ci-dessus. Cette peinture exprime plus spécialement la nature de la démocratie. Quant à l'aristocratie, comme elle est, pour Montesquieu, une altération de la démocratie, il pense qu'elle est d'autant plus parfaite qu'elle est plus semblable à la démocratie. On peut la laisser de côté sans danger d'erreur. Ce que peut faire dans une telle société la volonté unanime de tous les citoyens, on le comprend facilement. L'image de la patrie occupe les esprits, tandis que chacun en particulier est indifférent à son intérêt propre parce qu'il n'a à peu près rien en propriété. Il n'y a donc rien qui puisse désunir les citoyens en les tirant vers des partis contraires. C'est là cette vertu que Montesquieu considère comme le fondement de la République. Il appelle en effet de ce nom, non pas la vertu éthique, mais la vertu politique, qui consiste dans l'amour de la patrie et par laquelle nous nous faisons passer, nous-mêmes et nos intérêts, après ceux de l'État. On peut sans doute critiquer ce terme, non sans raison, car il est ambigu. Mais il n'est pas surprenant qu'il se soit présenté de lui-même à l'esprit de Montesquieu. N'appelons-nous pas vertu toute disposition morale qui impose une limite à un souci excessif de l'intérêt personnel ? Or, en République, cette disposition existe nécessairement chez tous, puisque l'âme sociale, s'il est permis de parler ainsi, réside dans l'esprit de chacun, et que par contre, ensuite de la frugalité générale, l'amour de soi n'a pas de matière où s'alimenter. Dans la conscience de chacun, la partie qui exprime la société et qui est la même chez tous est étendue et puissante. Celle qui se rapporte au contraire à nous seuls et à nos affaires personnelles est restreinte et sans force. Aussi les citoyens, sans avoir besoin d'être poussés par une force extérieure, mais par suite d'un élan naturel, se détournent-ils d'eux-mêmes pour se tourner vers le bien commun. Toute différente est la nature de la monarchie. Dans celle-ci, toutes les fonctions non seulement de la vie publique, mais aussi de la vie privée, sont partagées entre les diverses classes de citoyens. Les uns s'adonnent à l'agriculture, d'autres au commerce, d'autres aux divers arts et métiers. Il en est qui font les lois, d'autres qui les font exécuter, soit en jugeant, soit en gouvernant, et personne n'a le droit de s'écarter de son rôle et d'empiéter sur celui des autres. C'est pourquoi la monarchie ne peut se définir par le pouvoir d'un seul. Montesquieu lui-même ajoute d'ailleurs qu'une société ne doit jamais être appelée de ce nom, même si elle est gouvernée par un seul. lorsqu'il n'existe pas de loi fixe et constante selon lesquelles le roi gouverne et qu'il ne peut modifier à son gré. Ceci implique qu'il existe des ordres constitués qui imposent des limites à son pouvoir. Bien qu'il soit supérieur à eux, il est nécessaire pourtant que ces ordres possèdent une puissance propre et qu'ils ne lui soient pas tellement inégaux qu'ils ne puissent y résister. Supposez en effet que rien ne fasse obstacle à l'autorité du prince. Il ne pourrait y avoir de loi qui limite sa volonté, puisque les lois elles-mêmes dépendraient de celles-ci seules. C'est là le principe par où la monarchie diffère des autres régimes politiques. La division du travail, qui, dans la République, était nulle, tend ici à son développement maximum. La société pourrait alors être comparée à un être vivant dont les éléments, chacun suivant sa nature, remplissent différentes fonctions. C'est la raison pour laquelle Montesquieu estime la liberté politique propre à la monarchie. En effet, les classes, ou pour nous servir d'un terme très usité à notre époque, les organes du corps social, ne limitent pas seulement l'autorité du prince, ils se limitent réciproquement eux-mêmes. Chacun d'eux étant empêché par les autres de s'accroître à l'infini et de tirer à soi toutes les forces de l'organisme, peut développer sa nature particulière sans obstacle, mais non pas sans mesure. On comprend maintenant quelle place tient chez Montesquieu la célèbre théorie de la division des pouvoirs. Elle n'est rien d'autre que la forme particulière de ce principe, d'après lequel les différentes fonctions publiques doivent être réparties en des mains différentes. Si Montesquieu attache une telle importance à cette répartition, ce n'est pas en vue de supprimer tout désaccord entre les divers pouvoirs, mais au contraire, en vue de les faire mieux rivaliser entre eux, afin qu'aucun ne s'élève au-dessus des autres et les réduise à néant. Le lien social ne peut donc être le même que dans la République. Chaque classe, en effet, n'embrassant qu'un domaine restreint de la vie sociale, ne voit rien au-delà de la fonction qu'elle remplit. Aussi, est-ce l'image de cette classe, non celle de la patrie, qui occupe les esprits ? Chaque ordre ne tend qu'à un but, c'est de grandir lui-même, non d'accroître le bien commun. Il y a plus. Même l'homme privé veille davantage à ses intérêts. En effet, tandis que, dans la République, l'égalité de tous a pour conséquence nécessaire la frugalité générale, cette diversité de conditions du régime monarchique excite au contraire les ambitions. Il y a des degrés différents d'honneur, de dignité, de richesse, de pouvoir, de sorte que chacun a devant les yeux une condition de vie supérieure à la sienne et que par suite il en vit. Les membres de la société détournent tout de l'intérêt commun vers l'intérêt personnel, si bien que toutes les conditions de cette vertu qui est le fondement de la République font défaut. Mais la cohésion des éléments naît de leur diversité même. Cette ambition, qui met en mouvement les ordres et les individus, les stimule en effet, en même temps, à s'acquitter chacun le mieux possible de sa fonction. Aussi, poursuivent-ils inconsciemment le bien commun, tout en croyant viser seulement des avantages personnels. C'est cette émulation même entre les divers éléments de la société qui produit leur accord. À ce stimulant de la vie publique dans la monarchie, Montesquieu donne le nom d'honneur. Par ce terme, il désigne les ambitions particulières, soit des individus, soit des classes, qui font que personne n'accepte volontiers une diminution de sa condition, mais essaye au contraire de l'élever toujours le plus possible. Ce qui ne peut se faire si les hommes n'ont pas des dispositions naturelles suffisamment élevées et un certain souci de la liberté et de la dignité qui n'est pas en grandeur. Toutefois, l'honneur pouvant faire naître un amour de soi excessif devient facilement un défaut. C'est pour cette raison qu'en plusieurs passages, Montesquieu en parle avec quelque sévérité, ainsi que des mœurs de la monarchie. Ne croyons point d'ailleurs que par ce jugement il ait voulu rabaisser la monarchie, car ces inconvénients qu'il reconnaît viennent seulement du développement pris par les affaires privées et de la liberté plus grande dont jouissent les particuliers pour poursuivre leur intérêt propre. La vertu lui paraît d'ailleurs si difficile et si rare que le chef prudent doit, selon lui, ne l'utiliser qu'avec le plus grand ménagement. C'est pourquoi cette organisation si sage de la société qui, sans avoir besoin de la vertu, pousse les hommes à entreprendre de grandes choses, est à ses yeux si digne d'admiration qu'il lui fait facilement grâce de certains défauts. Sur le gouvernement despotique, je serai bref, car Montesquieu lui-même semble avoir mis moins de soin à le décrire. Au reste, il tient le milieu entre les sociétés précédentes. L'état despotique est en effet une sorte de monarchie dans laquelle tous les ordres seraient abolis et où n'existerait aucune division du travail, ou bien une démocratie dans laquelle tous les citoyens, sauf le chef de l'État, seraient égaux entre eux, mais égaux dans la servitude. Il offre donc l'aspect d'un être monstrueux dans lequel la tête seule serait vivante, parce qu'elle aurait tiré à elle toutes les forces de l'organisme. Aussi, le principe de la vie sociale ne peut-il être ni la vertu, parce que le peuple ignore les affaires de la communauté, ni l'honneur, parce qu'aucune différence de condition n'existe. Si les hommes sont attachés à la société, C'est parce qu'ils sont si peu actifs qu'ils suivent la volonté du prince sans résistance, c'est-à-dire uniquement par crainte. Ce qui précède suffit à établir clairement que Montesquieu a distingué de véritables espèces sociales. Ce serait encore plus manifeste si l'on descendait aux détails. Car ce ne sont pas seulement les principes de structure qui diffèrent, mais la vie tout entière. Les mœurs, les pratiques religieuses, la famille, le mariage, l'éducation des enfants, les crimes et les châtiments ne sont pas les mêmes dans la République, dans l'État despotique ou dans la monarchie. Montesquieu paraît même avoir été plus attentif aux différences entre les sociétés qu'à ce qui est commun à toutes.